14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Il savait très bien ce qu'il allait faire, ce qu'il comptait faire. C'était enlever Maëlys, lui faire subir les pires sévices et puis se débarrasser de son corps. Comme si c'était un vulgaire déchet ou une ordure. Il dira sa vérité qui à mon sens, voilà, c'est encore tout et n'importe quoi. Je n'attends rien de ce meurtrier, de ce tueur d'enfants.
Bonjour, c'est l'un des grands procès attendus cette année, le procès d'un homme qui va sans doute rester dans l'histoire du crime. Le 31 janvier, Nordal Lelandais sera ainsi jugé par la cour d'assises de Grenoble pour l'enlèvement, la séquestration et le meurtre de la petite Maëlys Desarrojo, 8 ans, kidnappée le 27 août 2017 lors d'une fête de mariage. La toute dernière image qui existe de la petite fille est celle captée par une caméra de surveillance. Une silhouette blanche, blottie contre la vitre côté passager, comme si elle était terrorisée par l'homme qui était au volant. Nordal Lelandais a reconnu les faits, mais n'a certainement pas tout dit. Fidèle à sa réputation, celle d'un homme qui ne partage aucun de ses secrets et n'avoue jamais spontanément ses crimes, ceux du caporal Arthur Noyer, de Maëlys peut-être et encore d'autres restés dans l'ombre. La citadelle Lelandais va-t-elle enfin se fissurer lors de ce procès ? Toute la vérité sera-t-elle faite sur la mort de la petite fille ? Nos invités et acteurs de ce dossier vont répondre à ces questions.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, le procès de Nordal Lelandais, accusé de l'enlèvement et du meurtre de la petite Maëlys, mais aussi d'agression sexuelle sur deux petites cousines. L'audience s'ouvrira le 31 janvier 2022 à Grenoble. 18 jours pour retracer la trajectoire d'un imprévisible prédateur. Ce lundi 24 septembre 2018, à 19h15, 13 mois après la disparition de Maëlys, Nordal Lelandais quitte menotté et sous bonne escorte la prison de Saint-Quentin-Falavier dans l'Isère. On l'habille d'un gilet pare-balles ainsi que d'un casque avec une visière protectrice. L'ancien maître chien, alors âgé de 35 ans, a accepté sans discuter de se prêter à la reconstitution du crime de la petite fille. Cette opération devait se tenir un mois auparavant, mais le procureur de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, l'avait reportée à cause des curieux et des journalistes. Cette fois est la bonne. Un peu plus d'un an après la disparition de leur fille, les parents Joachim Desarrojo et Jennifer Clayet-Marel vont assister à cette reconstitution prévue pour se terminer tard dans la nuit. Tous deux partagent le même scepticisme sur les explications données par Lelandais au juge d'instruction, une mort accidentelle. Le meurtrier présumé raconte qu'il a en quelque sorte perdu son sang-froid. Il a violemment giflé la fillette qui, de toute évidence, voulait quitter le véhicule. Ce coup l'aurait tué. La maman confie « On connaît notre fille, on sait qu'elle ne serait jamais montée dans la voiture d'elle-même. Pour moi, il l'a forcée, il lui a fait peur, il l'a menacée pour moi. Il est venu au mariage en voulant faire du mal. » À 20h54, Nordal Lelandais, tenu par une longue attache par un gendarme, retrouve la salle de mariage de la commune de Pont-de-Beauvoisin, là où il a croisé la route de Maëlys, 8 ans, à l'aube du dimanche 27 août 2017. Une voiture identique à celle qu'il conduisait ce jour-là, une Audi A3 grise, est également amenée sur les lieux. C'est dans cette auto, nettoyée à fond par l'intéressé après le drame, qu'avait finalement été découverte une micro-tache de sang de la victime. Lelandais est tenu loin des photographes et des caméras. Le procureur, le juge, son avocat, maître Alain Jakubowicz, ainsi que celui de la famille, maître Fabien Rajon, tout le monde a le loisir d'observer cet homme tout de noir vêtu et méconnaissable par rapport aux photos qu'on connaît de lui. Lelandais a pris du poids, il semble avoir vieilli. Il porte une épaisse barbe grise et suit tranquillement les indications des magistrats et enquêteurs. Il pose ainsi face à un mannequin d'enfant de la même taille que Maëlys et portant une robe blanche. Au fil des heures, le mis en examen montre comment il a attiré la petite fille pour lui montrer ses chiens dans la voiture. On lui demande ensuite de se mettre au volant de l'Audi. Les gendarmes refont ensuite la route que Lelandais a suivie au matin du crime. Contre toute attente, il s'est arrêté à quelques kilomètres de la salle des fêtes, dans une impasse d'une zone commerciale, tout à côté du magasin Super U de Pont-de-Beauvoisin. C'est Lelandais qui a désigné cet endroit aux enquêteurs. Une halte qui pourrait être l'endroit où il a donné des coups fatals à la petite fille. Lors de la reconstitution, il va effectivement prendre place sur le siège conducteur de l'Audi et mimer la gifle donnée du revers de la main droite à Ellis. Nordal Lelandais est ensuite amené à quelques kilomètres de là, à Domessin, en Savoie, là où il vivait avec sa mère. Lors de ses auditions, il a en effet raconté que lorsqu'il était avec Maëlys, il a déposé le corps dans une cabane de jardin. Il se serait débarrassé du bermuda blanc qu'il portait lors de la soirée de mariage, car celui-ci était taché de sang. La reconstitution s'achève au cœur de la nuit, dans les bois d'Attignat-Oncin, en Savoie, dans une zone escarpée du massif de la Chartreuse, 7 mois auparavant, 14 février 2018. C'est dans ce secteur qu'il avait entraîné les enquêteurs. Le crâne et des ossements de Maëlys y avait été retrouvé. Et voilà donc pour le film de ce crime, reconstitué sur les indications de celui qui va bientôt comparaître aux assises. Nordal Lelandais, on a en ligne notre premier invité aujourd'hui dans l'heure du crime, c'est Serge Puyot. Bonjour Serge.
Bonjour Jean-Alphonse.
Merci d'être avec nous dans l'heure du crime aujourd'hui. Vous êtes notre correspondant RTL à Grenoble et vous avez suivi cette affaire depuis le début. D'ailleurs, le petit extrait sonore qu'on a passé au début de cette émission, c'est évidemment le papa de Maëlys et c'est vous qui avez réalisé cet entretien poignant qu'on peut d'ailleurs retrouver, qu'on peut podcaster et réécouter évidemment sur RTL.fr. Je parlais, Serge, de cette reconstitution. En quoi c'est un moment important? Parce que finalement, on a l'impression de tout savoir.
Oui, on croit tout savoir, mais on ne sait peut-être pas tout. Et effectivement, la juge d'instruction a voulu remettre en condition Lelandais sur les lieux mêmes des faits qui se sont déroulés et voir effectivement comment il se comportait, notamment face aux parents de Maëlys, puisque les parents de Maëlys sont tenus à être présents lors de cette reconstitution, notamment la maman, Jennifer Cléier-Marel. Et donc, il y a eu aussi cette confrontation entre Lelandais et les parents de Maëlys. Et là, la mère de Maëlys a été extrêmement choquée par le comportement de Lelandais, puisque celui-ci lui a fait face sans baisser les yeux, rappelle-t-elle, après effectivement cette reconstitution. On aurait pu imaginer effectivement que Lelandais aurait fait profil bas devant la mère de sa victime. En tout cas, ça n'a pas été le cas et les parents de Maëlys ont perçu Lelandais comme quelqu'un de sans cœur, sans âme, disent-ils, de quelqu'un de froid qui, même en face des parents de Maëlys, ne baissait pas les yeux.
Oui, c'est ça, c'est une espèce de bloc un peu glacial, d'ailleurs, tel qu'il a été souvent décrit par les enquêteurs. Et on va voir si effectivement cette citadelle, ce bloc, va se fissurer au cours du procès qui s'annonce. Qu'est-ce qu'on a appris, Serge Puyot, de cette remise en situation, comme on dit, de cette reconstitution? Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux? Je parlais de l'histoire du Super Rue, ce supermarché. Ça, on savait pas ça.
Non, on savait pas. Lelandais avait dit que lorsqu'il avait quitté la salle de mariage avec Maëlys dans la voiture, au bout d'une certaine distance, la petite avait effectivement pris peur, dit-il, avait chouiné, ce sont ses mots, et donc qui lui avait mis une gifle, effectivement, une forte gifle au visage. Mais lors de la reconstitution, il a fini par reconnaître qu'en fait, il s'était arrêté ensuite donc près de ce Super U, une zone commerciale, donc près de Pont de Beauvoisin, et qu'il avait asséné plusieurs coups au visage de Maëlys, très violent, 3 ou 4 coups qui effectivement ont surpris par leur violence les personnes qui étaient présentes lors de cette reconstitution. Et la juge a rappelé dans son ordonnance de renvoi qu'effectivement cet homme qui faisait 1m83 pour 85 kilos et qui faisait de la boxe thaïlandaise a eu ces coups extrêmement violents au visage d'une petite fille de 8 ans et demi.
Qui ont pu la tuer, évidemment.
Évidemment, effectivement, avec une telle puissance, l'enfant a pu effectivement succomber.
Oui, je précise que, effectivement, ce geste, on le voit sur des photos qui ont été depuis publiées dans certains journaux. Il y a d'ailleurs des poursuites pour cette violation du secret de l'instruction qui ont été ouvertes là-dessus. Mais ces photos sont tout à fait effrayantes. On le voit effectivement mettre cette gifle, alors qu'il conduit de la main gauche et il assène cette espèce de gifle du revers de la main droite, tout en conduisant et en fixant la route. C'est tout à fait effrayant et édifiant d'après les photos de la reconstitution que on a. Bonjour Thibault Solano.
Bonjour.
Journaliste au magazine Marianne, vous avez suivi vous aussi cette affaire et vous suivez le cas Lelandais depuis le début. Je cite votre dernier roman qui n'a rien à voir avec cette affaire mais qui s'appelle Les Noyés du Clin aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Thibault Solano, on écoutait Serge Puyot, il disait que il dit quelque chose de à la fois d'effrayant et de très important, Serge Puyot. Il dit que il n'a pas varié d'attitude lors de cette reconstitution. On aurait pu croire que cet homme aurait pu être, je ne sais pas, accablé ou fuyant ou ailleurs, pourquoi pas. Là, il fixe vraiment les parents. Il ne scie pas. C'est sa constante chez le Landais.
Oui, c'est aussi l'attitude qu'il avait eue au procès de l'affaire Arthur Noyer au printemps 2021. C'est aussi l'attitude qu'il a renvoyée aux experts psychiatres tout au long de l'instruction. Un regard noir, je cite de mémoire les mots d'un expert, un regard noir, un bloc, effectivement, le même bloc qui d'ailleurs a résisté pendant longtemps aux enquêteurs, qui a tardé à faire des aveux, sauf à partir du moment où la science le mettait au pied du mur.
Oui, c'est ça,
en
hein.
échec, tout à fait. Et cette attitude-là, on peut d'ailleurs penser qu'il va la conserver tout au long du procès qui vient pour l'affaire Maëlys, puisque c'est son système de défense. C'est d'en lâcher le moins possible pour continuer à entretenir le brouillard qui subsiste quand même en partie sur certaines parties de l'affaire, et notamment sur le mobile du crime.
J'ai envie de dire que, pour faire une mauvaise comparaison, mais que le Landais, c'est un peu comme les grands truands. Il parle vraiment quand il est au pied du mur et qu'il ne peut plus aller ailleurs, qu'il est coincé. Et ça a toujours été le cas. Hein. Les gendarmes qui l'ont interrogé et réinterrogé, il fallait vraiment qu'ils aient des éléments à lui mettre sous le nez pour qu'il puisse s'exprimer.
C'est ça. On se souvient de l'affaire de la micro-goutte de sang dans le coffre de sa voiture, qui est l'élément qui lui a fait finalement avouer la mort de Maëlys, le meurtre de Maëlys. Et encore, c'était plutôt, on parlait de coup mortel. Version qui a ensuite changé. Notamment la reconstitution, c'était plus un coup, mais c'était plusieurs coups. Et c'est systématiquement comme ça. Au procès, on parlera également des petites cousines qu'il a agressées sexuellement, ses propres petites cousines de 4 et 6 ans qu'il a agressées à l'été 2017. Là aussi, il a fallu le confronter à des vidéos qu'il avait lui-même filmées
pour qu'il puisse,
pour qu'il avoue ces faits-là.
Nordal Le Landais a toujours affirmé qu'il n'a jamais violé Maëlys, affirmation invérifiable au regard de l'état du corps de la petite fille, même si les enquêteurs dressent de lui un accablant portrait d'agresseur sexuel. Tout au long de l'enquête, les gendarmes ont patiemment rassemblé une foule d'éléments sur la personnalité de Nordal Le Landais, une personnalité plus complexe et plus tourmentée qu'il n'y paraît. Lorsqu'il quitte en 2005 le 132e bataillon cynophile de l'armée de terre à Suippes dans la Marne, le maître chien est livré à lui-même. Il va multiplier les expériences professionnelles éphémères et connaître une vie sentimentale chaotique. Il apparaît vite comme un homme porté sur le sexe, indifféremment avec des hommes ou des femmes, et qui a un goût pour l'exhibition, et puis qui consomme aussi beaucoup de pornographie. Il va ainsi poster à l'insu de ses petites amies des vidéos les montrant en plein et bas sur des sites classés X. Plus troublant, Nordal Le Landais a également un penchant affirmé pour la pédopornographie. Il connaît le danger de visionner ce genre de vidéos et photos. Il utilise donc sur son ordinateur ou téléphone une application permettant de coder ses consultations. Pas moins de 314 fichiers interdits sont ainsi mis au jour par les enquêteurs. C'est dans ce stock d'images que vont être découvertes celles d'attouchement sur deux petites cousines, quelques jours seulement avant l'agression de Maëlys. Le jour même de la cérémonie de mariage à Pont-de-Beauvoisin, samedi 26 août 2017, l'ancien maître-chien a visionné des sites pédopornographiques. Les enquêteurs et les experts n'excluent pas que le Landais était ce jour-là à la recherche d'une proie. Il avait dans tous les cas de figure le besoin d'assouvir sa soif sexuelle, puisqu'il a insisté auprès d'ex-petites amies pour passer les voir. Elles ont toutes refusé ses avances, certaines se méfiant depuis longtemps du comportement de l'intéressé. Au lendemain du meurtre de Maëlys, le Landais s'est à nouveau connecté à certains sites pédopornographiques, des sites donnant accès à des images d'enfants de 3 à 10 ans. Fin 2018, un détenu de la prison de Saint-Quentin-Fallavier a rapporté devant les juges d'instruction que le prisonnier Nordal Le Landais lui a expliqué comment il avait violé la petite fille, puis l'avait violemment frappée pour l'empêcher de se débattre. Des propos démentis par Le Landais lors de ses interrogatoires. Il a toujours indiqué qu'il n'avait jamais regardé d'images d'enfants. Il ne s'intéressait, dit-il, qu'aux filles ayant au minimum 18 ans. À propos de Maëlys, il ne reconnaît pas le moindre attouchement. Dans le réquisitoire définitif rendu après 3 ans et demi d'instruction, la justice ne peut conclure au viol de la petite Maëlys, faute de charges suffisantes, est-il mentionné. Le parquet souligne toutefois un faisceau d'indices indiquant que le Landais, attiré par les hommes et les femmes, pourrait l'être aussi par les enfants. Il est ainsi mentionné le contexte d'attirance sexuelle pour les petites filles, le diagnostic de pédophilie, la consultation régulière et répétée de sites pédopornographiques sont autant d'éléments qui permettent d'envisager que les faits aient pu se dérouler concomitamment à des infractions de nature sexuelle à l'encontre de Maëlys. En clair, le parquet n'exclut pas un acte de nature pédophile. Et on retrouve Serge Pueyot en direct du bureau RTL à Grenoble. Serge, vous connaissez parfaitement ce dossier. Qu'est-ce qu'elle peut dire, cette autopsie du corps de Maëlys? Parce qu'elle pourrait cacher des secrets. Et là, c'est un peu compliqué, non?
Alors oui, c'est compliqué parce qu'effectivement, on sait que le corps de Maëlys a malheureusement pourri, entre guillemets, dans la nature pendant 6 mois. Mm-hmm. Puisque pendant 6 mois, le Landais s'est tu et c'est au bout de 6 mois confronté effectivement à cette preuve irréfutable d'une minuscule tache de sang dans le coffre de la voiture qui l'a conduit les enquêteurs, la juge d'instruction, le procureur sur les lieux où il s'était débarrassé du corps de Maëlys, mmh. En pleine montagne dans le massif de la Chartreuse. Et donc le corps était très très bien sûr abîmé lorsqu'il a été retrouvé. Il ne restait quasiment que des ossements. Et donc les experts, les médecins légistes ont découvert sur ce corps quand même une fracture des os au niveau du nez, donc deux fractures de la mandibule. Voilà ce qu'ils ont pu constater. Maintenant, en ce qui concerne les hypothèses du décès, il y en a 3 qui ont été avancées. Un décès de cause neurologique, c'est-à-dire un traumatisme crânien ou rachidien suite au coup porté par le Landais. Un décès de cause hémorragique possible également. Par rapport au coup qu'il a pu donner à la petite, donc au niveau des organes internes, et puis possiblement aussi un décès de cause asphyxique, c'est-à-dire qu'il aurait pu effectivement étouffer Maëlys. Donc voilà, ce sont des hypothèses émises par les médecins légistes, mais il n'y a aucune certitude parce qu'effectivement l'état du corps ne pouvait pas permettre de donner une mort certaine, une circonstance précise pour les médecins légistes.
Alors vous faites bien de le préciser parce que c'est très important, parce que ça va être aussi au cœur du dossier, les circonstances de cette mort qui ne sont pas encore très claires. Malgré cette reconstitution, le corps a été, vous l'avez dit, dispersé, il a été dégradé, peut-être des animaux ont d'ailleurs emporté certaines parties du corps. Voilà. On peut pas, Serge, il faut bien le préciser, on ne peut pas dire qu'il y a eu agression sexuelle ou viol sur cet enfant.
C'est impossible de le dire. Il ne restait pas de tissu au niveau du corps de Maëlys, donc effectivement des ossements. Et vous comprenez bien qu'à partir de là, il est extrêmement difficile de déterminer s'il y a eu agression ou pas au niveau sexuel.
Bien sûr. Thibaut Solano, est-ce qu'on peut croire, journaliste au magazine Marianne, est-ce qu'on peut croire que Nordal-Landais n'ait pas voulu agresser sexuellement Maëlys lorsqu'il l'enlève en voiture?
On ne peut pas prouver, en tout cas, qu'il y ait eu atteinte sexuelle. En tout cas, ça pose quand même question, c'est-à-dire pourquoi Nordal-Landais fait-il monter à bord de sa voiture la petite Maëlys cette nuit-là? Lui a toujours dit que c'était parce qu'elle voulait voir ses chiens. Mais alors, si c'était juste pour quelque chose d'aussi anecdotique, pourquoi est-ce qu'un témoin a entendu Nordal-Landais dire à la petite Maëlys « On se retrouve sur le parking, tu sors par cette porte, je sors par une autre porte ». Ce témoignage, qui n'a pas été contredit, montre quand même qu'il y avait une volonté de dissimulation. Et ça s'ajoute à ce que vous avez déjà dit, c'est-à-dire que le matin même et le lendemain, Nordal-Landais a fait des recherches pour trouver des images à caractère pédopornographique. Donc il y a volonté de dissimulation, il y a une pédophilie que Nordal-Landais, des penchants pédophiles que Nordal-Landais a lui-même avoué. À partir de là, effectivement, même si on ne pourra jamais le prouver, quel pourrait bien être le mobile du crime de la petite Maëlys?
Oui, il est dans un état où il est en plein fantasme à ce moment-là. Il est en espèce de recherche sexuelle incroyable dans les heures qui précèdent la mort de Maëlys et dans les heures qui vont suivre d'ailleurs. On peut penser qu'effectivement, on ne fait pas monter une gamine comme ça dans une voiture pour lui montrer des chiens, y compris l'emmener plusieurs kilomètres sur la route.
Jean-Alphonse,
ça paraît impensable. Serge Pueyot.
Oui, ce qu'il est important de préciser, c'est que ce soir-là, le soir des faits, le Landais était aussi en recherche d'une partenaire sexuelle.
Oui.
Il avait notamment appelé une compagne, dont le prénom est Anouchka, et donc cette dernière n'avait pas donné suite, effectivement, à sa proposition de relation sexuelle ce jour-là. Et après son incarcération, le Landais a réussi à avoir un contact avec cette ex-compagne, sans doute par téléphone. C'est une écoute qui a dû être mise en place par les instances judiciaires. Et le Landais a eu ses mots vis-à-vis de cette compagne qui lui avait refusé cette relation sexuelle ce soir-là. Il a dit exactement « Pourquoi tu ne m'as pas répondu ? Ça aurait tout changé, putain ! Il ne se serait pas passé ce qui s'est passé. »
Alors c'est très, très important, Serge, ce que vous dites là, parce qu'effectivement c'est dans le dossier. Et c'est finalement une sorte d'aveu en creux. On ne peut pas dire le contraire.
Exactement.
Hein, donc voilà, donc il vient simplement de dire, voilà, j'étais dans un état d'excitation intense. Si finalement j'avais pu avoir sous la main une proie, puisqu'on peut l'appeler comme ça, une petite amie, ça se serait passé de manière différente. Encore un petit mot, Thibaut Solano. Il y a quand même des similitudes avec la mort du caporal Noyé. Il est toujours dans cette pulsion sexuelle. Il est toujours en recherche lorsqu'il il enlève finalement le caporal Noyé.
Il y a effectivement plusieurs similitudes. Le soir ou la nuit où il s'en est pris au caporal Arthur Noyer. Là aussi, il avait relancé par message, avec énormément d'insistance, une fréquentation féminine pour obtenir des faveurs sexuelles. Il lui avait envoyé 89 SMS au cours de la soirée et elle s'était refusée à lui. Et à partir de là, effectivement, on l'a vu rôder à pied, puis à bord de sa voiture noire, jusqu'à temps de prendre en stop le caporal Noyer.
Serge Peillot, encore une dernière question. Il dit, moi, je regarde pas les sites pédopornographiques. Les enfants, ça m'intéresse pas. Il est honteux quand il aborde cette question. Est-ce que ça peut être un levier pour le faire craquer, entre guillemets, à l'audience ?
Ouais, alors c'est vrai que le Landais, notamment sur l'histoire des petites cousines, lorsqu'il a été confondu avec les vidéos retrouvées et des attouchements sur ses petites cousines de 4 et 6 ans, il a expliqué que lui, il ne se considérait pas comme pédophile. Ouais. Il explique avoir agi en raison de son mal-être, d'une attirance pour les jeunes femmes, pas spécialement pour les enfants. Il indique avoir agi sous l'effet de l'alcool et de la cocaïne. Et il a aussi cette phrase « Je ne faisais plus la différence entre une femme et une enfant ».
Alors ça, c'est très important, évidemment. Et c'est peut-être une différence qui va peser lourd lors du procès qui s'annonce. Une pulsion sexuelle qui aurait entraîné l'enlèvement et la mort de Maëlys, c'est la thèse de l'accusation. Et la conviction des parents de la petite victime, le Landais est décidé, lui, à maintenir sa version. Du 31 janvier au 18 février 2022, Nordal Le Landais, 38 ans, sera donc présent dans la cage de verre du box des accusés de la cour d'assises de l'Isère à Grenoble. L'ancien maître chien ne se désintéresse pas de ce rendez-vous judiciaire, le deuxième après le procès pour le meurtre du caporal Arthur Noyer et qui pourrait se solder par une condamnation à de longues années de prison. Loin de là, avec son avocat, maître Jakubowicz, il se tient informé de tout ce qui se raconte sur lui. Il commente volontiers les articles de journaux ou les émissions le concernant pour en dénoncer les inaptitudes. Va-t-il essayer de se faire passer pour un homme brisé et surtout une victime de son destin devant les juges et les jurés de la cour ? Pas impossible. Dans une lettre de prison adressée à une amie et révélée par l'hebdomadaire Paris Match, Le Landais écrit ainsi « J'étais si bien avant, mais l'alcool et la drogue m'ont mené ici. Je comprends toujours pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je suis si calme et généreux. » Le détenu ajoute « Je suis comme un vase cassé. J'essaie de recoller les morceaux, mais il y aura toujours des fissures qu'on verra pour toujours. » Les enquêteurs qui ont longtemps côtoyé Nordal Le Landais ces derniers mois sont habitués à ce personnage qui, depuis le début, semble se chercher des excuses, appuyant cela par sa famille, notamment son frère et surtout sa mère, qui le soutiennent contre vents et marées. Lors de ses interrogatoires, il est souvent apparu comme un manipulateur. Il affiche un sentiment de vide, d'abandon, une tendance à la manipulation, indique un expert qui l'a examiné. Le Landais est encore décrit comme narcissique et présentant une dangerosité criminologique extrêmement importante. Bernard Boulou, avocat de la famille d'Arthur Noyer, a eu tout le loisir de l'observer. « Il était toujours poli, courtois, dit-il. C'est un ancien soldat au sang-froid, imperturbable, qui maîtrise parfaitement les codes humains et son dossier. Et surtout, il jouit de la souffrance des autres. » Et je voudrais dans cette heure du crime qu'on s'arrête sur ces propos de Maître Boulou, rapportés là également par Paris Match. Un ancien soldat au sang-froid qui jouit de la souffrance des autres. C'est une phrase extrêmement puissante, très marquante. Est-ce qu'on peut être d'accord avec cette définition, Thibaut Solano?
Alors, ça supposerait de dire que Nordal-Hollandais est un sadique qui prend plaisir à faire du mal. Dans le dossier, ce qu'on voit plutôt, je dirais, c'est l'image d'un prédateur. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que il rôde, il chasse, il met du temps à aller vers sa proie, et il s'attaque à des proies vulnérables. Ça, c'est vraiment l'une des clés de son mode opératoire. Maëlys, une enfant de 8 ans, forcément, est une proie vulnérable. Et Arthur Noyer, qui lui aussi était militaire, et même militaire en service, était assez alcoolisé quand il est tombé sur Nordal-Hollandais. Donc également une proie vulnérable. Je crois que c'est surtout ça. Et d'ailleurs, ça avait été soulevé par les experts psychiatres. Certains étaient même allés jusqu'à comparer Nordal-Hollandais à ses chiens. Pour la chasse, le flair, l'odorat et la façon de retrouver un corps qu'il avait caché quelques mois plus tôt, précisément.
Et débusquer des proies, effectivement, qui sont en souffrance ou encore qui sont faibles. Une toute petite fille et un soldat qui est alcoolisé, qui n'a peut-être pas tous les moyens pour se défendre. Donc ça, c'est très important. Serge Peuillot, correspondant RTL à Grenoble, qu'est-ce qu'on sait de Lelandais en prison? Il envoie toutes ses lettres où finalement il se lamente un peu de son sort, quoi. C'est une victime lui aussi.
Il se fait passer pour une victime, en tout cas, effectivement. Lelandais a entretenu une relation pendant plusieurs mois avec une femme qui, effectivement, l'a contacté en prison. Et il a écrit des lettres où, effectivement, il dit qu'il ne comprend toujours pas ce qui s'est passé dans sa tête, que c'est quelqu'un de calme, de généreux, et que voilà, il y a eu ce qui s'est passé, mais pour lui, il rejette quasiment un peu sa responsabilité en disant qu'il y avait un mal-être à cette époque qui le rongeait, et que avec l'alcool, la drogue, eh bien, il est passé à l'acte sans comprendre véritablement pourquoi justement il a agi comme ça.
Alors c'est vraiment que la mécanique est bien plus compliquée que cela à définir. Est-ce qu'on peut dire, Serge Puyot, qui connaissait, qui vous suivait entre guillemets ce personnage depuis le début, qu'il aura le même visage qu'il montrait lors du procès Arthur Noyer?
Certainement, en tout cas, les proches de Maëlys pensent qu'il aura le même comportement. Après, que va-t-il se passer? Vous savez, un procès, ça reste un procès d'assises. Il y aura en face les parents de Maëlys, oui, toute la famille de Maëlys, les grands-parents, oncles, tantes, et il y aura une pression fantastique. Tout peut arriver. Alors c'est vrai qu'on a dit que Lelandais craquait difficilement, voire pas du tout, mais effectivement, avec cette pression, cette colère peut-être des proche des victimes, qui sait ce qui peut se passer. Mais en tout cas, les parents de Maëlys ne croient pas à ce que Lelandais dise la vérité.
Les parents de la petite Maëlys, un couple dont la vie a explosé après le meurtre, seront présents sur le banc de la partie civile. Impossible de savoir comment se déroulera leur face-à-face avec l'accusé. Le couple que formaient les parents de Maëlys n'a pas survécu à la mort de leur petite fille, victime collatérale d'un drame insoutenable. Joachim De Arrojo et Jennifer Clayet-Marel ont divorcé pour vivre chacun de leur côté. J'ai tout perdu en quelques secondes. On était une famille heureuse avec des enfants magnifiques et notre vie a explosé. Je sais que cette souffrance restera toujours présente, indiqué 3 semaines avant le procès, le père de Maëlys sur RTL. 2 ans après le meurtre, la mère de l'enfant, Jennifer Clayet-Marel, avait déjà exprimé son total désarroi sur les réseaux sociaux. Ma vie est brisée, j'essaie de survivre, de continuer le combat contre cet assassin pédophile que je hais tellement. J'attends toujours la vérité. Les parents de Maëlys ont toujours cru à la préméditation. Nordal-Lelandais avait selon eux prévu d'enlever et d'agresser sexuellement une enfant lors de la fête de mariage de Pont de Beauvoisin. Il avait conscience que cela allait mal se terminer. Lorsqu'il dit que la mort de Maëlys n'est qu'un accident, je n'y crois pas. On n'enlève pas une enfant par accident à 2 ou 3 heures du matin, insiste le père de la fillette. Le scénario de la préméditation n'a pas eu les faveurs des 3 juges d'instruction grenoblois qui ont finalement renvoyé le maître chien aux assises pour meurtre. Et voilà donc cette vie brisée. Serge Puyot, c'est vous qui aviez recueilli le témoignage du papa de Maëlys, témoignage vraiment touchant et très émouvant. Comment ça se fait qu'on n'ait pas retenu la préméditation dans cette affaire? Moi, je suis un peu troublé, à vrai dire, par les conclusions des magistrats instructeurs.
Vous n'êtes pas le seul, les proches de Maëlys également. Donc effectivement, ils ont une analyse très juridique des faits et ils n'ont pas détecté pour eux effectivement les éléments nécessaires à la qualification d'assassinat et donc effectivement de préméditation. C'est vrai qu'on peut en discuter. On peut en discuter puisque lorsqu'on enlève une enfant et qu'on part avec une enfant dans sa voiture entre 2 et 3 heures bien du sûr. Matin, est-ce que c'est pour la ramener en bonne santé et dire à ses parents, ben voilà, on revient d'une visite pour aller voir des chiens. C'est vrai que ça paraît difficilement explicable. Donc voilà, il va y avoir tout un débat lors des débats de la cour d'assises de Grenoble pour essayer de comprendre comment tout ça a pu se passer. Mais en tout cas, les parents de Maëlys sont persuadés de la préméditation de Lelandais car ils disent que leur fille était méfiante et visiblement, eh bien, Lelandais a su la mettre en confiance lors de cette soirée pour l'attirer jusque dans sa voiture. Peut-être la faire monter avec violence dans la voiture, ce que pense a priori le père de Maëlys. Voilà, il pense que sa fille n'est pas montée toute seule comme ça, gentiment, dans la voiture de Lelandais.
Et sur cette dernière photo, effectivement, de Maëlys, on croit apercevoir cette ombre en robe blanche qui est totalement terrorisée du côté passager de la voiture. Thibaut Solano, journaliste au magazine Marianne, je lisais chez nos confrères de Paris Match que Lelandais a demandé à un aumônier qu'il aille prier sur la tombe de la petite Maëlys. Ça paraît comme ça invraisemblable et d'un cynisme absolu. On est toujours dans le personnage ?
On peut penser que c'est toujours le personnage, une sorte de manipulation médiatique. Il avait sans doute intérêt à ce que ça fuite, cette information. Rappelez-vous, quand il mène les enquêteurs, les magistrats à la dépouille de Maëlys en février 2018, une fois qu'on trouve le corps de Maëlys, il se met à genoux et il pleure. Et beaucoup d'observateurs ont jugé alors que c'était un numéro d'acteur. Là, ça rappelle quand même le même procédé, surtout que ça fuite vraiment peu de temps avant le procès. Et quand on met ceci en parallèle avec tout ce qu'on a dit sur Nordal-Hollandais, ce bloc qui n'avoue qu'au dernier moment, qui montre peu d'émotion, forcément il y a une certaine incohérence dans l'attitude. Donc évidemment, on peut penser à une grossière mise en scène.
Ça peut faire partie d'une préparation à un procès qu'il sait qu'il va être important, hein, puisqu'il risque il risque la perpétuité. Donc ça peut être une préparation, une mise en condition de l'opinion.
Tout à fait. Comme l'avocat de Nordal-Hollandais s'exprime assez peu dans les médias, puisqu'il déteste le traitement médiatique de cette affaire, on ne sait pas trop encore le système de défense qui va être adopté. Peut-être ça va être attaché à l'addiction de Nordal-Hollandais, à la drogue, à l'alcool. Souvenez-vous qu'à un moment donné, quand même, Nordal-Hollandais avait dit « J'ai revu le fantôme d'Arthur Noyer » à travers la petite Maëlys cette nuit-là dans ma voiture, laissant penser qu'il allait plaider une sorte de schizophrénie de double personnalité. Ça n'a pas du tout convaincu les experts psy. Donc à chaque fois, la défense change son fusil d'épaule, s'adapte. Alors peut-être qu'effectivement, ils vont essayer de jouer sur la corde sensible de l'émotion à ce procès-là. Ça va être compliqué.
Oui, c'est compliqué. On est vraiment sur la corde raide, si je puis dire, hein, cette corde de l'émotion. Serge Puyot, encore un mot. Vous connaissez bien les parents, vous les avez approchés à plusieurs reprises. Je suppose qu'ils redoutent au plus haut point ce rendez-vous ou bien ils l'attendent avec vraiment une espèce d'avidité, l'envie d'avoir la vérité ?
Les deux à la fois, pourrait-on dire. Effectivement, ils attendent depuis 4 ans et demi d'être confrontés au meurtrier de présumé de leur fille. Mais effectivement, ils disent aussi ne rien attendre de Lelandais. Pour eux, il a toujours menti. Pour eux, il a menti lors du procès de Chambéry en expliquant que la mort du caporal Noyer, c'était un accident, une bagarre qui avait mal tourné. Ils sont persuadés du contraire, comme les parents d'Arthur. Et donc, ils estiment qu'une nouvelle fois, Lelandais va essayer de fuir ses responsabilités, d'enrober, entre guillemets, un scénario qui lui serait favorable. Tout en n'avouant pas véritablement ce qui s'est passé.
Ce qui s'est passé, oui. Et nous verrons évidemment à ce deuxième procès ce que va dire Nordal-Hollandais, parce que malgré les enquêtes, son parcours demeure en bien des points, encore aujourd'hui très nébuleux. Condamné au mois de mai 2021 à 20 ans de prison pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, Nordal-Hollandais s'expose à une peine encore plus lourde lors de ce deuxième procès. Il est toujours poursuivi par une sombre réputation qui lui colle à la peau, celle d'un prédateur qui peut s'attaquer aux hommes comme aux enfants. Lors du procès Noyer, son avocat, maître Jakubowicz, avait demandé aux jurés de se défaire de la pollution du mythe d'un tueur en série, d'un monstre. Malgré des enquêtes infructueuses, le nom de Lelandais revient régulièrement derrière des affaires de disparition inexpliquée. Celle notamment de deux jeunes hommes lors d'un festival de musique électronique en Savoie. Des faits que l'intéressé rejette. Un jour, ils diront que je suis à l'origine de la disparition des dinosaures. Écrivez avec désinvolture, ou peut-être cynisme, Lelandais dans l'une de ses lettres de prison. Serge Pueyot, correspondant RTL à Grenoble, et vous allez suivre évidemment pour RTL ce procès qui s'annonce, procès très important dans cette affaire, et puis pour le futur de Lelandais. Il a toujours cette image de prédateur, de monstre que rejette son avocat, mais qui va le poursuivre à ce procès, c'est inévitable.
Ah oui, c'est sûr qu'effectivement, il aura toujours cette étiquette collée à la peau, ce cynisme effectivement d'avoir laissé pendant 6 mois des parents dans l'incertitude sur le sort de leur fille avant d'avouer finalement alors qu'il était effectivement acculé avec une preuve irréfutable. Donc même si effectivement lors du procès de Chambéry et de l'affaire Noyer, Lelandais a essayé de montrer qu'il était quelqu'un de placide, de posé, qui répondait aux questions, qui était propre sur lui, voilà, il n'a convaincu personne. Quand on sait ce qu'il lui reprochait, la façon dont il a procédé, on se dit qu'il joue un numéro d'acteur pour essayer de s'en tirer le mieux possible. C'est en tout cas l'analyse qui a été donnée par plusieurs acteurs de ce procès, et notamment au niveau des parents des victimes.
Bien sûr, et d'autant plus, Serge, là, on change de braquet totalement à ce procès. C'est une enfant qui a été tuée, qui a été enlevée et tuée. C'est pas pareil.
C'est pas pareil du tout. Ce n'est pas un militaire, ce n'est pas quelqu'un qui avait la force de se défendre éventuellement comme Arthur Noyer, même s'il était en état d'alcoolémie malheureusement ce jour-là et qu'il n'avait pas pu faire face à Lelandais. Mais en tout cas, une petite fille de 8 ans et demi enlevée dans une soirée de mariage qui disparaît comme ça, c'est vrai que l'émotion a été incroyable dans toute la France, vous l'avez constaté aussi. Et donc là, on n'est plus du tout dans le même registre. On est là véritablement effectivement dans un crime qui a bouleversé l'opinion publique. Et donc la pression va être énorme sur Nordal Lelandais. Va-t-il résister ? Ce sera la question bien sûr du procès. Certains disent que oui, d'autres envisagent peut-être effectivement une once d'humanité, si je puis dire, ou en tout cas quelques révélations, mais ce n'est pas certain.
On verra, et d'autant plus que les parents seront là. Et là, effectivement, ça c'est aussi un élément qui change la donne totalement. Thibaut Solano, journaliste au magazine Marianne, je l'ai dit très brièvement, il y a d'autres soupçons sur Lelandais. On a l'impression qu'on n'a pas fini avec lui. Hein.
En fait, il y a quand même beaucoup de dossiers qui ont été exhumés et qui ont été approfondis par les services d'enquête. Il faut le dire les choses, sa participation à d'autres crimes n'a absolument pas été prouvé à l'heure actuelle. Ce qui fait dire d'ailleurs à Maître Alain Jakubowicz, l'avocat de Nordal Lelandais, qu'on a construit médiatiquement la figure du tueur en série. Parce que dans l'acception commune, il faudrait 3 victimes pour qualifier un tueur de tueur en série. Je rappelle quand même que dans l'affaire Maëlys comme dans l'affaire Arthur Noyer, c'est exactement le même mode opératoire. La nuit, la voiture, s'en prendre à une victime vulnérable, une enfant, une personne très alcoolisée, couper son téléphone portable pour ne pas être repéré et aller dissimuler le corps dans un endroit isolé, dans un massif. Exactement le même mode opératoire à 4 mois
avec
d'intervalle.
Avec une chasse sexuelle à la clé. Un mobile sexuel, même si...
Jamais prouvé, mais ce qui sait.
Exactement. Voilà. Même si ça n'a pas été prouvé.
Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ce mode opératoire qui se répète à 2 reprises en 4 mois, à part les tueurs en série, qui fait ça? Bien sûr, on n'est plus dans les années 80, donc un possible tueur en série est stoppé avant d'agir, et on n'est pas non plus dans Minority Report, on ne va pas punir quelqu'un pour des crimes qu'il n'a pas encore commis, mais il faut rappeler simplement que les experts psy ont dit que Nordal Lelandais avait le profil d'un tueur en série.
Serge Pueyot, vous avez le dernier mot dans cette histoire, correspondant à RTL à Grenoble. Je l'ai dit, il risque la perpétuité virtuellement, Lelandais. Et à la clé, il y aura aussi une peine lourde de prison qui va s'appliquer. Il ne pourra pas sortir avant plusieurs années. C'est ce qu'il risque, Lelandais ?
Oui, là, effectivement, il risque très très gros, hein, avec ce meurtre d'une enfant de 8 ans et demi, dans les conditions que l'on connaît, avec possiblement le cynisme qu'il a... effectivement affiché depuis le début de cette affaire. Donc voilà, c'est vrai qu'il pourrait, se retrouver de très très nombreuses années en prison et ne pas sortir de sitôt.
Et avec une lourde peine de sûreté, évidemment. Merci beaucoup Serge Puyot et Thibault Solano d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.